Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment réussir la numérisation de l'administration publique? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec le professeur Berki Kitumu Maimona, expert en technologie web. Professeur Berki, bonjour.
Bonjour Jody.
Bienvenue dans Okapi Service. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des rumeurs d'empoisonnement dans la société. Lorsqu'une personne décède, directement, on soupçonne un cas d'empoisonnement. C'est de plus en plus fréquent dans la société aujourd'hui. Alors, quelles sont les causes, qu'est-ce qui est à la base de ces rumeurs et quelles sont les solutions à proposer? On en parle à partir de 11h05 heure de Kinshasa dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, composez le 081-890-63-94, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Marcel Ngombo à la coordination et à la réalisation de cette émission qui est présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Alain Goy à la technique.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de la numérisation de l'administration publique. L'outil informatique est presque inexistant dans l'administration publique en République démocratique du Congo. Les imprimantes, ordinateurs, scanners et autres équipements des vidéoconférences sont rares dans les bureaux de l'État. Les fonctionnaires écrivent à la main sur des papiers volants ou dans des registres. Par ailleurs, les documents officiels sont souvent imprimés dans les bureautiques installées à proximité des bureaux de l'État. Autre constat, les services des archives ont du mal à retrouver un document dans la masse des papiers poussiéreux qui s'accumulent dans les bureaux. Alors pourquoi est-il important aujourd'hui de digitaliser l'administration publique et comment y arriver? Eh bien, on en parle dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons déjà en ligne le professeur Berki Kitumu Maimona, expert en technologie web. Professeur Berki, encore une fois, bonjour.
Bonjour Jody.
Alors, nous parlons de la numérisation de l'administration publique. Qu'est-ce que cela veut dire, numérisation?
Alors, Jody, vous l'avez, c'est un peu assez négatif pour l'administration qui déjà relève et ressort les retards quant à l'évolution technologique.
Donc, professeur, on vous entend pas très bien. Il y a un bruit tout autour, un bruit désagréable. Je sais pas si vous utilisez le, voilà, vous utilisez des casques ou.
Ça va beaucoup mieux là.
Voilà, là ça va. Allez-y.
Alors, je disais tantôt que vous avez vous-même fait un constat assez négatif dans votre introduction, ce qui démontre les retards que connaît notre administration, notre pays, dans son organisation, d'un point de vue technologique. Vous savez, dans un monde qui, donc le nôtre, ce monde, cette vie actuelle où l'activité humaine est dominée par les nouvelles technologies, les avantages de la transition vers le numérique, vers l'informatisation, un peu plus vers le stockage des données sur un serveur de l'administration publique permettrait la transparence, la diligence dans les traitements de dossiers et services rendus aux usagers. Donc, mais aussi la transparence des opérations administratives et financières dans les différentes activités. Donc, l'État a tout à gagner en maintenant une mainmise, un contrôle permanent sur les informations qui seraient alors disponibles partout et à tout moment. Donc, numérisation, pour répondre directement à votre question, c'est prendre tout ce que nous avons comme contenu sur version papier ou qui encore n'est que dans un traitement, dans un ordinateur, enregistré dans un ordinateur, et les mettre à la disposition, les partager suffisamment au sein de l'administration ou de l'appareil de l'État pour que l'État lui-même ou les différents services puissent contrôler et gérer les dossiers rapidement et en temps réel.
Voilà. Donc, la numérisation de l'administration publique présente plusieurs avantages. Vous allez d'ailleurs revenir là-dessus tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on retrouve dans l'administration publique même des machines à écrire qui datent des très longtemps. Dans certains bureaux, on continue à les utiliser. Alors, par où faut-il commencer pour digitaliser, numériser l'administration publique?
Bon, pour ce qui est des machines à écrire, il y a dans certaines sociétés, notamment en Occident, il y a ces correspondances qui ne doivent être faites que par machine à écrire. Ça, c'est une question de culture. Bon, pour nous, moi, je pense que c'est plus une question de manque des moyens ou d'équipement. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord changer les habitudes de gens. Vous vous attendiez peut-être que je dise qu'il faut d'abord équiper l'administration. Non, avant d'équiper, il faut préparer ces différents utilisateurs à être aptes à utiliser ces ordinateurs. Il faut qu'ils intègrent l'utilité et le caractère indispensable de l'outil informatique. Tant que cela n'est pas fait, on peut équiper. Moi, je suis sûr que y a une volonté, certainement, d'équipement ou de formation, mais tant que les gens ne ressentent pas l'importance, la nécessité de tourner vers les outils émergents, il n'y aura pas évolution. Donc la première des choses, c'est de changer les mentalités, la façon de faire au sein de l'administration publique. Faire comprendre à ces différents fonctionnaires que l'information qu'ils doivent traiter doit l'être rapidement et cela doit être fait pour que le contrôle soit rassuré ou assuré au niveau de la hiérarchie.
Oui, professeur?
Oui.
D'accord. Donc, d'abord, vous avez dit qu'il faut procéder au changement des habitudes au sein de l'administration. Oui, au sein de l'administration publique. Alors, revenons d'abord aux avantages que le numérique offre aujourd'hui. Si il faut numériser les services de l'État, par exemple, les services de la population où on délivre les documents chaque jour aux gens, et quels sont les avantages qu'il y a à numériser l'administration publique aujourd'hui?
Voilà. Je reviens un peu sur ce que je disais tantôt, parce que l'adoption d'une technologie, c'est d'abord une question de société. Tant qu'une société ne ressent pas le besoin, donc un individu, une communauté, une organisation ne ressent pas le besoin, ou ne ressent pas l'utilité d'évoluer vers une technologie, cette adoption va prendre beaucoup de temps. Il y a des différentes étapes d'adoption, telles que tracées par Roger Severet, et tant que le besoin n'est pas manifeste au sein de l'organisation, au sein de la société, cela va tarder. Vous pouvez équiper, vous pouvez financer des formations, mais ça ne va pas arriver. Alors, les avantages. Vous savez, quand, par exemple, on va dans une commune chez nous, pour obtenir un document aussi simple qu'une attestation, par exemple, d'habitation, il faut des jours ou une composition familiale. Il faut des jours, il faut des journées. D'abord, on rencontre quelqu'un debout à l'entrée de la commune qui vous demande de l'argent, mais je crois que maintenant on a essayé de centraliser les paiements, mais après il faut revenir, il faut repasser, il y a le bourgmestre qui prend du temps pour signer, parfois il est là, parfois il n'est pas là, parfois il fait autre chose. Alors que dans des sociétés évoluées, d'un point de vue technologique, il y a des documents que vous pouvez avoir de chez vous, vous allez sur internet, sur les sites de la commune, vous sélectionnez le document et vous l'avez. Donc, la numérisation de l'administration publique permettrait alors aux citoyens d'accéder rapidement à du contenu, à des informations, à des documents, contrairement à rapidement que maintenant, il y aura cette facilité-là. Et au-delà du document, il y aura l'information qui passerait mieux. Vous savez, hier, j'étais avec des gens et quelqu'un a dit, oui, il y a les bars qui doivent être fermés et tout et tout. Mais je dis, mais le chef de l'État n'a pas dit ça. Mais l'information n'a pas circulé. Tout simplement parce que les mécanismes, les moyens de circulation de l'information sont limités. En principe, déjà, pour ce qui est de la musique dans les bars, chaque commune, je crois, le ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa a décidé, je crois, il y a 2 ans ou 3 même, que la musique dans les bars, ce que nous appelons les bars, devait s'arrêter à 22 heures. Mais les gens ne savent pas. Tout simplement parce que l'information est limitée. L'information n'est détenue que par des gens qui ont accès à des certaines sources. Mais s'il y avait la numérisation, si le service communal était numérisé et qu'il y avait cette mise à jour régulière et efficace, moi, j'aurais plus besoin d'aller à la commune pour obtenir une information, le prix d'une attestation, savoir quel est le nom de mon bourgmestre, comment obtenir un rendez-vous pour le rencontrer. Donc la numérisation permettrait de faciliter le service aux citoyens.
Voilà, donc ça permet d'améliorer la qualité des services, la rapidité, par exemple, vous voulez obtenir un document à l'administration, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. En ligne, tout peut se faire.
Tout à fait. Vous pouvez tout faire en ligne et imprimer votre document. Et même au-delà, vous pouvez même savoir quelles sont les démarches pour obtenir tel document. Aujourd'hui, il est difficile même de savoir comment faire pour obtenir une attestation de naissance. Comment on fait pour obtenir cette attestation? Quand vous allez à la commune, vous rencontrez le premier que vous rencontrez, vous dira peut-être qu'il faut donner les pièces d'identité, il faut aller appeler un témoin, un autre vous dira autre chose. Alors que ce sont des informations simples qu'on peut avoir. Et aussi, ça permettra à la commune d'avoir toutes les données sur ses habitants. Parce que au moins, tout le monde sera sur le serveur, il y aura une base de données qui répondra le nom de tous ceux qui consultent, les gens peuvent même s'enregistrer. Ça peut même faciliter l'enregistrement des habitants de la commune. Parce que s'il y a un site web qu'on lançait, une application d'enregistrement de chaque citoyen, tout le monde sur son smartphone le ferait facilement. Et là, on est déjà dans la question de l'enrôlement, les enrôlements ou l'identification nationale. Ça pourrait résoudre ce problème-là.
Et certains disent que la digitalisation permettra de lutter contre la corruption et tout ce qui se passe dans les bureaux de l'État où les services sont monnayés à tout moment.
Mais tout à fait, je dis tout à fait, parce que tout le monde sera au courant de tout. Moi, je saurai combien coûte une attestation et je sais chez qui il faut payer, quand est-ce qu'il faut payer. Donc, on ne peut plus me donner un prix. Honoreux, on ne peut plus me dire ce qui n'est pas vrai. Et au-delà de tout ça, l'autorité qui gère la commune, par exemple, ou qui gère un service public, est au courant de tout parce que l'information est partagée. Donc l'État est maintenant au courant de ce qui se fait, puisque tout est enregistré, tout passe par les outils, par un même canal, qui prend tout et qui centralise.
C'est le cas avec certains internautes parlent du passeport. On vous dit qu'officiellement le passeport coûte autant, mais quand vous allez là-bas, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'intermédiaires et parfois qui vous compliquent la situation. Et finalement, on ne sait pas à combien ça revient.
Mais évidemment, parce que déjà pour le passeport, vous prenez un exemple qui est un casse-tête. Il y a un prix officiel, mais est-ce qu'il y a suivi par rapport au respect de ce prix? Quel est le niveau de diffusion de l'information sur les conditions, les moyens d'obtention de ce passeport? L'État lui-même déjà s'arrange pour créer une certaine magouille, une certaine arnaque, mais bon, c'est involontaire, je suppose, tout simplement parce que, comme on le disait tantôt, l'État n'est pas connecté. Combien de passeports sont imprimés? Parce que si on savait combien de passeports étaient imprimés, on saurait combien il faut donner aux gens. On saurait qui a payé quoi. Les gens vont payer les formulaires à la banque. Mais qui va payer le formulaire à la banque? Parce que s'il faut passer par les intermédiaires, l'intermédiaire qui va payer le formulaire, vous remettez de l'argent à l'intermédiaire, il s'inscrit. Mais il s'inscrit en quel nom? Si c'était informatisé, l'État saurait, ou l'administration publique saurait, que tel monsieur qui tout nous revient tout le temps pour acheter des formulaires de passeports, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir autant de passeports? puisqu'il n'y a pas des traces qui permettent à l'État de surveiller, de contrôler et de suivre, conséquence, on est dans un flou total qui favorise justement la corruption, qui favorise justement les fuites des deniers publics. Et c'est ça, en fait, que l'une de l'un des avantages du numérique. Les traces qui restent, les traces.
Bien. Comment réussir la numérisation de l'administration publique? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Nous avons deux auditeurs en ligne, Romain de Bukavu et Didier nous appelle des Moines du Tour. Romain, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est la suivante. D'abord, je suis très ravi du thème choisi aujourd'hui. Et réellement, nous constatons que l'initiative en soi, elle est très bonne. Parce que notre administration est gangrenée par beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, de façon qu'on n'arrive même pas à s'y pencher. Comme vous l'avez dit tantôt, la numérisation de l'administration, elle est bonne en soi, mais on devrait plutôt commencer par sensibiliser, d'abord par former la personne censée mener cette numérisation. Parce que actuellement, dans nos bureaux, dans l'administration congolaise, on y trouve de vieux qui ont déjà atteint l'âge majeur pour y travailler. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre.
Ils ont atteint l'âge de la retraite, c'est ça?
Oui. Face à cette situation, on se voit toujours reculer en arrière et on n'arrive même pas à faire ce qu'on devrait faire. Vous trouverez dans un bureau, monsieur, un vieux âgé de 70 ans qui vous manipule une machine dactylographique. Alors, face à cette personne, si vous placez une machine donc de la technologie actuelle, il sera vité à de sérieux problèmes et il ne saura même pas quoi faire. Donc moi je peux dire que les ministres ayant la numérisation dans ses attributions devraient d'abord commencer par sensibiliser et former les agents censés mener cette numérisation.
Bien, merci Romain de Bukavu. Didier, vous êtes à Moines du Tour. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Didier.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la sélection. Ici, à partir de Moines du Tour. Par exemple, au niveau de l'EPST. L'EPST, dès qu'on délivre les diplômes, il y a des diplômes qui sont retenus à Kinshasa. Et les lauréats n'ont pas leurs diplômes. Des fois, si on numéralisait le système, à tout moment, le candidat qui a besoin de diplômes, qui est à l'intérieur, il peut être sur Internet, ainsi, il peut trouver les diplômes, il peut faire des demandes, des démarches à partir de en ligne là, il aura
il son imprime.
Diplôme.
Oui.
Des fois, même si le diplôme physique venait, quand même, un papier qui peut le servir à travailler. Et deuxièmement, si vous prenez par exemple au niveau de la mairie, où on est du tout, le service n'est pas numéralisé. La numérisation est d'une grande importance. Quand vous partez pour certains documents, ces gens-là d'abord recourent à la dactylographie, un système déjà dépassé.
Des
temps anciens. Des fois, ils le font à papier, ils n'ont pas même des classeurs. Quand il y a autant de documents, il faut les enlever. Il fallait nécessairement la numérisation doit être insérée dans tous les services publics de l'État, voire même privés, c'est un peu bien. C'est tout ce que j'avais comme contribution à vous donner.
Merci. Nous disons également merci à tous les internautes qui ont réagi sur Facebook, sur la page Facebook d'Okapi Service. Tamboué Kasselele depuis la ville des Béni au Nord Kivu. Il nous dit ceci, l'informatisation de l'administration publique est une bonne chose en RDC où il y a plusieurs cas de détournement dans la fonction publique. Cela permettra aussi d'avoir la rapidité au sein de l'administration. Ça permettra aussi de réduire les cas de détournement d'argent. Mais Monsieur Jody, à part l'importance, n'oubliez pas que l'informatisation de l'administration se butera à plusieurs défis, dont notamment la méconnaissance de l'outil informatique par bon nombre des fonctionnaires de l'État. Professeur Berki, votre réaction?
Alors, Jody, déjà, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Romain, mais je pense qu'au-delà de la sensibilisation, il faut d'abord moraliser. Il faut faire comprendre à ces gens, bon, à ces fonctionnaires, l'importance de l'informatisation ou de l'usage de l'outil informatique ou des documents partagés. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pourquoi j'ai dit il faut moraliser ces gens? Les amener au niveau de l'acceptation de la technologie Parce que même, et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est par rapport à l'âge. L'usage, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'objectif, de besoin, d'intérêt. Est-ce que ces personnes trouvent de l'intérêt à utiliser cet outil? Si oui, ils seront obligés à apprendre. Ils seront amenés à maîtriser, à adopter ces technologies. Donc c'est vraiment pas un problème d'âge. Je suis même sûr qu'il y a certainement déjà eu des formations pour permettre à intégrer l'intégration des outils informatiques dans les services de l'administration publique. Parce que il m'arrive d'aller dans certains services de l'administration publique et de voir des ordinateurs dans les bureaux. Donc c'est vraiment pas un problème d'âge. Bon, deuxièmement, pour Didier, je dirais tout à fait d'accord avec lui. Vous savez, nous sommes un pays, notre pays est tellement vaste. Le pays, il est grand. Sans la numérisation, sans l'informatisation des services de l'administration publique, nous serons toujours butés à des sérieux problèmes. Et Didier parle de l'EPST. Vous savez, si l'EPST, tous les fonctionnements, le processus était numérisé, il n'y aurait pas de problème d'école fictive. Il n'y aurait pas de problème d'enseignants fictifs qu'on paierait, parce qu'on serait au courant de tout le monde. Il y aurait des traces pour les identités de gens, pour savoir tel fait ceci, tel autre fait cela. Et le dernier intervenant, je n'ai pas pu saisir son nom.
Oui, Didier a parlé même des diplômes d'État, tout ça, et les certificats qui traînent souvent à l'EPST. Oui. Les enfants ont déjà terminé les études, mais ils ont du mal à recevoir leur diplôme. Et si c'était informatisé directement, un clic sur Internet, vous pouvez accéder aux documents, disait Didier.
Bon, je pense pas. En fait, il y a des documents de valeur qui ne peuvent être obtenus que physiquement. Donc, comme les diplômes, par exemple. Mais seulement, ce qui serait avantageux, c'est plutôt... les référencements. Vous savez, on en parle d'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelques jours, les résultats des élèves, les résultats des étudiants. Moi, je peux être étudiant aujourd'hui dans une université, faire falsifier des documents, arriver dans une autre, faire croire que c'est vrai, puisque cette université, mon université d'origine, n'a pas un répertoire numérique de tous les étudiants, leurs évolutions, et que là où je vais, ils n'ont pas le temps de vérifier, je serai inscrit dans une université sans vraiment avoir les titres adéquats. Donc, c'est plus au niveau de la gestion des diplômés que ça peut intervenir la numérisation, mais pas dans l'accès de documents de valeur comme un diplôme. Un diplôme doit demeurer physique, mais les informations peuvent être transmises de manière numérique, par exemple, par voie numérique. Par exemple, les élèves de Mouné-Dutou ou dans des écoles qui sont vraiment loin dans le pays, nous avons un problème d'infrastructure routière. Donc, que de faire avancer les papiers, les documents et tout pour que le ministre constate réellement qu'il y a X nombre d'élèves qui ont réussi les diplômes, X nombre de ceux qui doivent obtenir leurs documents de réussite. Ils peuvent avoir accès à cela ou bien ils peuvent faire partir cela par voie numérique. Ça serait peut-être l'intérêt par rapport à l'EPST, par rapport à l'éducation nationale, même de manière générale, mais pas obtenir les documents de valeur.
Bien. Adrien Isomi Bokenge nous a écrit de Mbandaka sur Facebook. Il dit « La numérisation de l'administration publique en soi est une bonne chose, mais dans un pays comme la RDC, là où on apprend les gens à comment laver les mains pour lutter contre certaines maladies, et là où parfois les gens passent 5 nuits sans courant, ce n'est pas une chose facile. Le gouvernement devrait d'abord commencer par arranger les infrastructures, assurer l'électricité partout et enfin organiser les différentes formations en informatique à l'intention de son personnel. Maintenant, on pourra parler de la numérisation de l'administration publique, mais jusque-là, combien d'agents, fonctionnaires de l'État maîtrisent l'outil informatique? Le problème de l'électricité en RDC est-il résolu? Les infrastructures sont dans quel état? Voilà autant de questions que se pose Adrien Isomi Bokenge depuis Mbandaka. Nous allons accueillir d'autres auditeurs, Platini Mbombo est aussi un Mbandaka et Piero Mpiana, Mpania de Lubumbashi. Platini, bonjour.
Je dis bonjour, je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà, merci beaucoup Jody. Je pense que j'ai bien suivi l'invité comme il a beaucoup impingué sur la thématique. La sujet d'aujourd'hui est très important parce que la monde d'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'internet.
Le monde d'aujourd'hui.
Voilà. Donc, si je parle ici sur le plan de la dynamique publique de l'État, ici je parle de la ville de Mbandaka, là où moi je suis. Et si je fais allusion, je peux vous dire qu'il y a au moins seulement 5% de la liberté de public de l'État, ou soit des chefs de division, des chefs de bureau, qui essaient un peu de maîtriser un peu les tuiles informatiques. D'autres ne connaissent même pas, n'ont même pas l'idée sur ça.
Pourquoi? Et quand vous allez dans l'administration pour demander un document, comment ça se fait généralement?
Merci. Je vous parle ici. Je suis d'ailleurs au bâtiment de Mbandaka, là où habite le gouvernorat de l'Équateur. Je suis là parce que là-bas, il y a beaucoup de bureaux des publics de l'État. Si vous allez dans un bureau demander un document, il faut que on revienne dans ce document qui était passé sur le machine là qu'on appelle dactylographie là, qu'on frappe sur le mètre tout ça là. J'oublie même les noms à placer.
Machine à écrire.
Si vous demandez machine à écrire, voilà. Si vous demandez un document, il faut que vous donnez au moins 2 jours. Donc vous venez aujourd'hui. Et on attend au moins 2 jours pour que les secrétaires puissent chercher petit à petit, pour ce qui veut aller retrouver ces documents-là. Mais si on allait justement dans le monde informatique, on peut rapidement trouver ces documents. Et aujourd'hui aussi, je peux aussi vous parler une chose. Allez au niveau des parquets. Je crois qu'au niveau des parquets, ici, dans la ville de Mbandaka, vous allez constater que même au niveau des OPJ, tout ça, il n'y a pas d'outil informatique. Tout ce que ces secrétaires-là continuent à faire, les machines écrites là, tout ça. Parce qu'il n'y a pas le machine, il n'y a pas le tout informatique au niveau de leur bureau. Et aussi, même au niveau de mairie, apparemment aussi, même je peux dire à 25%, il y a bien que ça, mais il n'y a pas aussi de bureau qui est installé là-bas, qui a aussi des machines outils informatiques. Là aussi, ça pose un sérieux problème. Donc maintenant, aujourd'hui, s'il faut aller récupérer un document, ou soit s'il faut le chef de division écrire un document officiel, il faut que le chef de division quitte son bureau, aller dans un cyber quelque part, essayer de frapper, tout ça pour essayer d'imprimer ces documents-là. C'est ça aussi, ça crée aussi un sérieux problème. Donc, ce que moi je peux vous dire aujourd'hui est que, d'abord, s'il faut commencer à parler, on doit d'abord inviter l'INPP. L'INPP, c'est un service de l'État qui est par étatique de l'État, qui est censé informer aussi c'est le jeune de l'État de connaître aussi le tuyau informatique.
Donc, vous voulez dire qu'il faut envoyer les fonctionnaires à l'INPP apprendre comment utiliser l'outil informatique.
C'est ça. Donc, oui, il faut envoyer aussi les fonctionnaires au niveau de l'INPP. L'INPP est là pour former déjà à connaître l'outil informatique. Aujourd'hui, on peut avoir les machines, soit les machines portables, tout ça, mais si vous ne connaissez pas à manipuler tout ça, ça va créer aussi ces réponses.
Merci, donc, merci Platine.
Moi, je peux inviter, d'inviter l'INPP, de faire un rappel au niveau des fonctionnaires de l'État de venir s'enregistrer pour que la formation...
Pour suivre des formations en informatique.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci, on va donner la parole à Piero Mpania de Lubumbashi. Bonjour Piero.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les intervenants qui viennent de passer à l'émission.
Quelle est votre question, Piero?
J'ai quelque chose. Hein. D'abord, moi je prends la COVID-19 comme matériel didactique qui nous a aidé à voir là où nous étions et là où nous allons. Pourquoi je dis ça, Jody? J'ai vu que si cette maladie n'a pas existé, on n'allait pas voir de visioconférence. Aujourd'hui, ça nous donne, c'est ça les avantages. Ça réduit les coûts de billets, de voyages, de restauration. Parce qu'on voyait des délégations partir en Europe. Parfois, on nous dit que la délégation qui était venue là n'a pas honoré sa facture. Mais quand même, ça nous réduit à des choses comme ça. Ça, c'est les avantages. Et d'autres avantages que moi je peux dire, c'est lorsque vous avez un document, vous le convertissez dans un fichier comme ça, et dans peu de temps, ce fichier-là vous donne le document, et vous pouvez transmettre ce document-là. Moi je suis à Lubumbashi, Le bureau de Kinshasa les trouve en un seul jour. Là, ce sont des avantages. Mais l'invité peut nous dire aussi des inconvénients. Parce qu'ici, en RDC, il y a des réalités. On ne peut pas se valer. Je vous dis, il n'y a pas de l'énergie d'abord. Et puis, ça prend les moyens. Si la fonction publique n'est pas à mesure d'abord d'éradiquer la corruption et le détournement des deniers publics, comment elle peut mettre le machine capable d'aider à ceux-là qui vont travailler avec la numérisation, de les aider à bien faire le travail? Ça, c'est la deuxième question. Et j'aimerais chuter, je dis, avec une question. Là, je prends l'exemple de mon papa qui est décédé il y a 6 mois. Le papa est un ancien de la fonction publique. On a trouvé que quand on a décentralisé la fonction publique et on a multiplié les provinces, il était difficile que les provinces décollent. Et on a récupéré tous les anciens dirigeants, on les a nommés comme des inspecteurs, au moment où on a des nouveaux inspecteurs qui sont jeunes, qui ont encore l'informatique pour bien dire, qui connaissent des machines, et la plupart des jeunes qui parlent ici, ils disent que nos machines archaïques là, mais ce sont des papas là qui étaient récupérés et qui travaillaient. Moi, je peux dire que ce ne sont pas des machines qui travaillaient, mais il faut d'abord chercher.
Il faut former d'abord les fonctionnaires.
Dans les têtes de ceux-là qui travaillent. C'est les têtes d'abord qui doivent travailler, pas la numérisation, parce que vous pouvez travailler et donner à cet informaticien-là des machines. Il va mettre des papiers, mais le papier là a pris le temps de le lire, de comprendre, de faire le travail tel qu'on lui demande.
Merci Pierrot. D'accord, il y a quelqu'un a dit aussi sur internet que vous mettez les machines dans les bureaux aujourd'hui, vous risquez de ne pas les retrouver demain. Il peut facilement disparaître. Benjamin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur, je suis Daniel Kachama, bonjour au professeur et bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Kachama.
Quelle est votre question par rapport à la numérisation de la fonction de l'administration publique?
Merci beaucoup, cher Jody, pour l'octroi de la parole. Ce n'est pas une question comme telle, mais c'était une contribution. Je pense que nous sommes de ceux-là qui pensent que la numérisation, soit l'informatisation de l'administration publique, s'avère très, très indispensable. Pourquoi? C'est parce qu'on peut quand même réduire ou soit lutter contre les détournements, la fraude, et pourquoi la tricherie. Mais si Jody tenait, à chaque cycle électoral qui se passe en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'électeurs qui se font enrôler. Vous allez voir, comme ici à Kananga, une seule personne peut se faire 4 à 5 cartes de lecteur. Et ce même carte-là porte la même identité. Mais si je dis, demandez-vous, si réellement il y avait l'informatisation de l'administration publique, peut-être qu'on aurait attrapé tous ces gens-là. C'est quand même grave, c'est très grave. Mais si je dis, aujourd'hui, je peux vous donner même quelques exemples. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Moi, je connais quelqu'un qui a terminé le cycle des graduats. Quelqu'un qui n'a jamais été à la banque pour payer le frais académique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on commence à renvoyer pour le frais académique, lui, il va voir les informaticiens et s'est fait fabriquer le bordereau comme s'il était passé à la banque pour payer l'argent. Et tout ça, ça se passe comme ça, mais c'est jeudi. Voilà pourquoi nous pensons que tout part du responsabilité de l'État. Et si aujourd'hui on peut même numériser, oui. Mais avec quel budget? Nous allons quand même l'avènement du ministère du numérique en RDC, mais il revient en tout premier lieu à l'État congolais d'allouer un budget très signifiant à ces ministères-là. Comme ça, on peut faire en sorte qu'on puisse lutter contre tous les antivalets qui gangrènent aujourd'hui l'informatique.
D'accord. Merci. Sinon, merci Benjamin de Kananga. Nous parlons de la numérisation de l'administration publique. Alors, la plupart d'entre vous sont revenus sur le fait qu'il faut d'abord former les fonctionnaires de l'État, et il faut les sensibiliser et puis équiper l'administration publique en ordinateur et autres, la connexion Internet, certains parlent de là, il faut une bonne connexion avec la fibre optique, il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait un budget, on peut faire appel à l'INPP pour former les fonctionnaires de l'État par rapport à tous ces changements. Professeur Berki Kitumu, votre réaction?
Alors, je vais résumer les interventions de Adrien, Platini, Pierrot et Benjamin sous deux aspects. Le tout premier, c'est sur les infrastructures. J'ai dit en introduction que pour qu'il y ait appropriation, il faut d'abord que se manifeste un intérêt. Tant que pour notre pays, les dirigeants ne trouveront pas un intérêt sur les priorités, notamment l'électrisation, la mise à disposition des outils, tout effort serait vain. Donc on peut discuter, on peut investir, mais tant qu'il n'y a pas ces préalables-là, on aura du mal à avancer. Et Adrien l'a dit, hein, s'il n'y a pas de courant, comment on fait pour se connecter? Si dans les bureaux de l'État, il y a des coupures d'électricité, comment on fait pour que, même si c'est informatisé, comment ils font pour travailler? Donc d'abord, il faut prendre des mesures, il faut mettre en place des moyens, équiper, d'abord d'un point de vue infrastructurel, et deuxièmement, commencer par la sensibilisation. La sensibilisation, la moralisation, mais les changements des habitudes. Intégrer une culture, la culture du numérique, à ce personnel de l'administration publique. Et ce n'est qu'ensuite qu'interviendra la formation. Si aujourd'hui, nous sommes pour la plupart équipés d'un smartphone, parce que nous en avons besoin, nous estimons que avoir un smartphone nous permet de bien évoluer, de bien communiquer, de bien discuter avec les autres, parce que ça a un besoin exprimé, il y a un intérêt personnel, un intérêt particulier qui se ressort et qui crée un besoin.
Tant que professeur Barki, pour terminer, on retient que la première phase, c'est d'abord la sensibilisation. Il y a besoin, il faut sensibiliser les fonctionnaires de l'État par rapport à tous ces changements.
Mais seulement après avoir amélioré les infrastructures. Et deuxièmement, il y a la problématique du rajeunissement et du recrutement du personnel de l'administration publique.
Bien.
Didier a parlé du personnel vieillissant. Est-ce qu'il ne serait pas temps de rajeunir? Et qui recruter? Qui sont ces gens qui travaillent? Comment sont-ils recrutés? Quel est le profil pour travailler dans l'administration publique? Tout ça doit être revu. Parce que il faut recruter quelqu'un pour être agent attaché de bureau, par exemple, et qui ne sait pas saisir à l'ordinateur, taper à l'ordinateur, ça pose problème. Aujourd'hui, un attaché à quelqu'un, tout celui qui a été à l'école, sait comment saisir, taper à l'ordinateur. Donc, quand tu es engagé attaché de bureau, ça dit que tu vas travailler au bureau, dans un bureau. Tu dois taper, tu dois apprendre à taper préalablement. Ça doit faire partie des conditions de recrutement. Donc, infrastructure, équipée sur d'un point de vue infrastructurel. Deuxièmement, sensibiliser, intégrer la culture du numérique. Ensuite, former et réfléchir sur une nouvelle forme de recrutement où les gens auront ces moyens, où les gens seront déjà formés. On peut pas apprendre à quelqu'un aujourd'hui, de nos jours, on peut plus apprendre à quelqu'un à taper à l'ordinateur.
Bien. D'accord. Merci beaucoup, professeur Barki Kitumu Maimona. Je rappelle que vous êtes expert en technologie web. Nous allons accueillir tout à l'heure monsieur Jean-Paul Nenga, archiviste au bureau central des coordinations. Avec vous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody. Merci beaucoup et bonne continuation.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Comment réussir la numérisation de l'administration publique? Le sujet vous intéresse? Eh bien, le standard est ouvert. Appelez au 081 890 63 94 pour participer. Nous allons accueillir à présent M. Jean-Paul Nenga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes archiviste au bureau central de coordination et président des archives. Oh, il y a un bruit désagréable qui, je sais pas d'où ça vient. Essayez de voir, peut-être vous avez activé la main libre. Et je rappelle, je disais que vous êtes archiviste au bureau central des coordinations et président des archivistes professionnels du Congo et du CNRBICA, branche Afrique centrale du Conseil international des archives. Nous parlons de la numérisation de l'administration. Aujourd'hui, vous pouvez aller chercher un document dans les bureaux de l'État 5 ans plus tard. Et il vous sera difficile de le retrouver. Quels sont les avantages qu'offre la numérisation aujourd'hui par rapport à l'archivage?
Alors, je vous remercie, monsieur le journaliste, pour m'avoir associé à cette question aussi importante, qui touche pratiquement la vie de ce que nous faisons et de ce que nous menons. En réalité, j'ai suivi tout à l'heure le premier intervenant de la première partie de votre émission. Et j'aimerais d'abord qu'on revienne sur le contexte même de la numérisation. Je crois qu'il est important qu'on définisse d'abord, parce que c'est une émission, nous sommes suivis par plusieurs milliers de personnes, il va falloir que nous puissions contextualiser d'abord les choses avant de répondre à votre question. C'est quoi la numérisation? Qu'est-ce qu'on entend par la numérisation? Il est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et des nouvelles technologies et de l'information et de la communication, le monde connaît des multiples changements dans presque tous les domaines, et tous les secteurs de la vie de notre société est touché par ces phénomènes de la numérisation. Donc il va falloir qu'on commence d'abord par comprendre ce qu'on attend par la numérisation. La numérisation, je crois que c'est un procédé, bien entendu, informatique, qui permet la conversion de documents qui, jadis, étaient sur support papier ou analogique vers d'autres supports. Alors, numériser, c'est effectivement la technique qui accompagne ces procédés-là. Alors, aujourd'hui, notre administration est confrontée à cette problématique de vouloir chercher à retrouver des documents qui étaient sur support papier, mais on ne sait pas le retrouver. Le problème, d'abord, je crois que c'est au niveau de la formation. On ne peut pas imaginer, parce que la numérisation ou l'informatisation, c'est en fait l'expression du physique. Moi, je vais vraiment aborder cette question sous l'angle d'abord archivistique, parce que je suis archiviste, bien entendu, je m'intéresse aussi aux questions liées à l'archivage numérique, électronique, ainsi de suite. Mmh. Mais il va falloir que nous puissions d'abord expliciter clairement les choses. La numérisation, que ce soit l'informatisation, c'est l'expression du physique. Et donc, il va falloir que les archives qui sont physiques soient d'abord prises en charge correctement pour donner lieu à ce que la numérisation, qui est une technique, un procédé qui vient avec tout l'arsenal informatique, soit bien tenu. Donc si au commencement ou au début on a commencé à organiser les archives comme il se doit, je crois que le problème se posera toujours. Effectivement, la numérisation nous apporte beaucoup d'avantages aujourd'hui, parce que il faut se demander pourquoi on numérise. On numérise pourquoi? On numérise effectivement les documents pour pouvoir le préserver. Donc la préservation des documents est un atout important dans le processus de la numérisation des documents, mais également la diffusion des documents. Nous numérisons les documents pour qu'on puisse multiplier les accès à ces documents. Donc la diffusion des documents avec la numérisation sera à grande échelle. Également la sauvegarde des documents, c'est aussi un point essentiel. Donc on numérise les documents pour pouvoir multiplier également le support de sauvegarde de ces documents. Et également enfin la substitution des documents. Donc quand on numérise, c'est aussi pour permettre à ce que les documents qui sont préservés, qui seront diffusés, qui seront sauvegardés, soient aussi substitués en plusieurs supports. Donc la numérisation apporte beaucoup d'avantages dans notre société, mais il y a des préalables. Il y a véritablement des préalables qu'il faut à tout prix respecter. Notamment, comme j'ai dit, il va falloir d'abord qu'on considère que la numérisation est une dimension qui ne doit pas remplacer tout de suite les archives physiques, les archives traditionnelles. Il va falloir que les archives physiques qui ont été produites soient d'abord bien organisées, et que la numérisation, et qui ne doit pas aussi être un luxe. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la numérisation, oui, le monde tend vers la numérisation. C'est pas que tout le monde doit s'allier. La numérisation apporte beaucoup d'avantages, mais certes, il faut commencer par le commencement. La numérisation ne doit pas être un luxe, ça doit être véritablement une nécessité, ça doit être un besoin. Et maintenant, dans le contexte congolais, est-ce qu'aujourd'hui, la numérisation est un besoin? Je crois que la réponse est oui, mais en même temps non. Oui, parce que effectivement, nous sommes au niveau de nos administrations, nous passons dans le bureau, dans différents bureaux, nous sommes en train de voir cette réalité. C'est-à-dire que nous constatons que le bureau sont assaillis par des documents, vous avez des placards qui sont remplis par des documents. Mmh. Et effectivement, ce problème-là se pose parce qu'il n'y a pas de professionnels qui doivent commencer à organiser les documents d'abord physiques pour que la prise en charge électronique soit aisée. Donc, c'est un besoin qui se pose dans nos administrations, mais il faut commencer, comme je l'ai dit tantôt, par le commencement. Je crois que dans un premier temps, ce sont là les grandes lignes que je peux vous donner en attendant de pouvoir encore élargir.
Bien, on va accueillir un auditeur de Fungurume, Okende. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Ok, ma question c'est par rapport au problème de numérisation de l'administration.
Oui.
Je vois que ce système-là qu'on peut utiliser, ça peut parfois endommager certaines histoires. Par exemple, nous avons ici les problèmes d'avoir des disques durs. Il peut y arriver assez qu'on utilise les disques durs, mais par imprudence, on peut formater et les documents peuvent disparaître. C'est pourquoi j'ai jugé, bon, d'abord, il faudrait toujours qu'il y ait le problème de la bonne gestion par rapport à la documentation et de pouvoir numéraliser.
Bien, merci. Donc, on peut utiliser les disques durs pour sauvegarder les éléments, mais il y a risque de les perdre aussi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, monsieur Jean-Paul?
Bon, pour la question de l'auditeur, je pense que, comme je l'ai dit, la numérisation offre beaucoup d'avantages dans la mesure où on peut substituer les documents, c'est-à-dire que les documents qui étaient sur support papier ou sur autre support que papier peuvent être convertis, substitué à un autre support. C'est-à-dire que nous avons parfois, par exemple, un document sur Instamp ou bien sur une photo et qu'on veut le numériser pour le substituer à un autre support, c'est faisable. C'est faisable avec la numérisation. Donc ça, ce sont les atouts, ce sont les avantages que la numérisation nous offre. Mais cependant, il va falloir que le problème de la formation puisse suivre. Qui doit numériser? Parce qu'il y a problème de formation, il y a le problème d'appropriation, il y a le problème d'infrastructure, il y a le problème de ressources, même le problème juridique. Aujourd'hui, nous parlons tous de la numérisation, mais est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui accompagne, qui organise le secteur de la numérisation? Nous avons suivi tous, je crois que c'était en décembre 2019, un conseiller du chef de l'État, je crois Mugisho, chargé de questions liées au numérique, qui nous a pompé les documents stratégiques relatifs au plan national du numérique. Mais aujourd'hui, on doit se demander quelle est la suite à ces documents.
Aujourd'hui, il y a même tout un ministère qui s'occupe du numérique.
Exactement. Aujourd'hui, on a même créé un ministère chargé du numérique, mais qu'on nous définisse véritablement les termes de référence de ces ministères. Qu'est-ce que le ministre doit faire? C'est-à-dire que parce que le numérique, c'est transversal. C'est vraiment un domaine qui est transversal, qui implique plusieurs acteurs à la fois, notamment les informaticiens, les archivistes, les juristes. Et, voilà, donc tous ces mondes-là sont censés travailler. C'est pas l'apanage seul de je sais pas moi des informaticiens ou quoi là. C'est un domaine transversal qui doit inclure plusieurs ressources, plusieurs intelligences qui devront réfléchir sur des questions notamment juridiques, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il faut un cadre juridique pour accompagner la numérisation des documents, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je peux répondre à l'auditeur.
Bien, Gilbert est en ligne depuis Mbandaka. Bonjour.
Et bonjour la radio Capi et bonjour aussi à nos deux invités. Vraiment, je salue la pertinence du sujet parce que le premier intervenant a bien cité là-dessus et déjà intervenant vient de nous démontrer clairement qu'avec la numérisation, on peut avancer. Mais ce que moi j'ai compris personnellement, c'est que la numérisation, c'est parce qu'il s'agit du monde informatique, ça demande assez de moyens. Et parce qu'on n'a pas assez de temps, je voulais poser une question à l'invité parce que je voulais savoir là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais a disposé combien pour accompagner ce secteur de numérisation? Parce que le secteur est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 21e siècle. On est même dans le coup toujours sur les papiers. Parce qu'aujourd'hui, on vit la qualité même des intros, des bibliothèques, des bureaux, et ainsi de suite. Parce que aujourd'hui, on voit la numérisation, en fait, vous entendez que non, même après le temps, même après 10 à 20 ans, vous pouvez vous recouvrir facilement et vous avez toutes les informations. La seule question est celle de savoir combien aujourd'hui l'État congolais dispose comme les moyens pour accompagner ces personnes. Parce qu'il y a.
Merci Gilbert. Voilà, Gilbert est revenu sur les moyens. Un auditeur a dit aussi tout à l'heure que un internaute, voilà, que l'État devrait d'abord, le gouvernement congolais devrait d'abord commencer par acheter des serveurs, parce que si on n'a pas des serveurs, où est-ce qu'on va loger toute cette masse, toutes ces données là? Monsieur Jean-Paul, vous avez la parole.
Oui, mais monsieur le journaliste, je crois que la question de l'auditeur sont pesant d'or dans la mesure où on ne peut pas imaginer, comme je l'ai dit tantôt, que la numérisation ne doit pas être un luxe. Ça doit être vraiment un besoin, une nécessité pour répondre aux multiples problèmes que nous avons dans notre société. Alors, la question de savoir est-ce que l'État congolais y accorde un budget, je ne sais pas répondre à cette question, d'autant plus que je ne relève pas du pouvoir public, je ne suis pas membre du gouvernement ou encore du ministère du numérique, mais cependant, en tant qu'acteur de développement dans le secteur du numérique, je crois que nous devons nous efforcer d'approcher le gouvernement pour que ce dernier puisse mettre effectivement de moyens, accorder véritablement de moyens conséquents dans ce secteur d'activité, parce que c'est un secteur important qui va résoudre pas mal de problèmes. Je crois que l'un des intervenants aussi qui a parlé, il a évoqué la problématique aujourd'hui de la Covid. La Covid nous a effectivement mis sous cette approche de travail. Donc, c'est un atout que nous devons aussi considérer. On ne doit pas considérer aujourd'hui la Covid comme étant un mal, mais comme étant un atout, une opportunité qui vient un peu nous mettre dans une situation de repenser notre travail, notre façon de faire. Donc, pour ce qui concerne le budget, je crois que nous allons approcher les autorités pour qu'ils puissent accorder quand même un budget conséquent dans ces secteurs d'activité. Voilà.
Voilà. Et quelqu'un a dit qu'il faut commencer par acheter des serveurs.
Exactement, parce qu'on ne peut pas imaginer l'informatisation, la numérisation des documents, parce que la numérisation consiste à associer l'outil informatique. On ne peut pas imaginer la numérisation dès lors qu'on ne dispose pas des équipements. Il y a des préalables, les préalables notamment, il faut acquérir des équipements informatiques, les serveurs, il faut avoir des machines ordinateurs de grande vitesse, la connexion Internet, voilà. Donc tous ces carcans font que nous soyons pas à même de pouvoir résoudre ces problèmes. Et également le problème de la ressource énergétique. Nous savons dans quel état notre pays se trouve en termes de fourniture d'électricité. Ça pose énormément de problèmes. Or, cette problématique de la numérisation veut à ce que toutes ces questions soient effectivement résolues, notamment la fourniture énergétique, les infrastructures informatiques, la connexion Internet, même les ressources humaines. Donc c'est toutes ces questions-là aussi le problème de la formation du personnel.
Voilà, donc il y a autant de préalables.
Effectivement, il y a de préalables défis qu'il faut commencer par élever et puis voir cette question comme il se doit.
Bien, merci Jean-Paul Nenga. Je rappelle que vous êtes archiviste au Bureau central des coordinations et président des archivistes professionnels du Congo et du CNRBICA, branche Afrique centrale du Conseil international des archives. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question de la numérisation de l'administration publique. Excellente journée et à la prochaine.
À la prochaine, merci. C'est moi qui vous remercie.
Bien, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des rumeurs d'empoisonnement. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, appelez déjà au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. On va se retrouver tout à l'heure à 11h05, juste après les informations, juste après le bulletin d'informations de Radio Okapi. Pour participer à Okapi Service, composez le 081-890-63-94.